Le 5 février à Kinshasa, le Conseil supérieur de la défense de la République démocratique du Congo évoquait les questions sécuritaires liées à la traîtrise de certains membres des forces de la défense et de la sécurité. Et ce conseil plaidait pour la levée du moratoire sur la peine des morts. Qu'en est-il aujourd'hui en République démocratique du Congo sur cette question qui défraye la chronique? Les historiens, vous le savez, s'accordent sur l'origine de la peine des morts. Celle-ci représente la punition du groupe envers un individu qui ne respecte pas les règles de vie de sa communauté. Mesdames et messieurs, c'est votre magazine Congo Chronique qui traite des questions de l'heure sur le plan politique, économique, mais également social en République démocratique du Congo. Et ça se passe sur la 95.3 FM et sur www.radiodelafemme.net.
Congo Chronique, magazine présenté par Marlon Cash.
Il s'agit de ce sujet, fin du moratoire de la peine de mort en République démocratique du Congo, progression ou régression? La question est posée et ce n'est pas à moi de vous répondre, c'est à mon invité de vous répondre. Et c'est qui cet invité? Il s'appelle Passy Mbayo, il est avocat, il est directeur de cabinet au ministère de la Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté, il est également président national de la colline des Popularium Progressio Copop. Bienvenue à vous, Monsieur Mbayo Passy.
Merci bien, c'était un plaisir de vous retrouver, surtout de retrouver la radio de la femme.
Congo Chronique, magazine présenté par Marlon Cash.
Alors, je vous ai présenté notre invité du jour. Il s'agit de Maître Passy Mbayo. Il est déjà avec nous dans ses studios pour parler de cette question épineuse qui défraye la chronique. Il s'agit bien évidemment du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo, progression ou régression. Bien avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, nous voulons vous poser une question purement générique. Vous, personnellement, comment se porte la République démocratique du Congo aujourd'hui? Les pays est diagnostiqué comme étant malade, diagnostiqué comme étant en convalescence, diagnostiqué comme étant tout va bien, en bonne santé, d'après vous?
Bien, il faut dire que d'emblée, vous commencez par une question difficile. Mais il semble que à des questions difficiles, la réponse doit être simple. Alors, si ce pays était dans l'hypothèse d'un homme malade, ben je vous informe qu'il est en train de guérir. Guérir pourquoi? Puisque il est des choses que nous n'avons pas vues hier et que nous sommes en train de voir. Le jour de la remise et reprise entre Tshisekedi et Kabila, sous le plan de la sécurité, il lui avait été remis des rapports selon lesquels le pays qu'il s'apprêtait à diriger contenait plus de 193 groupes armés. Et en ce jour, vous en comptez au bout de doigts. Cependant qu'on en comptait au bout de doigts, dans sa petite maladie, une autre infection a pris naissance. C'est le M23 égal Rwanda, c'est l'AFC des Nanga et de la Kabylie égal Rwanda, c'est le Zaïre qui vient de naître, qui est une autre infection née de la volonté rwando-ougandaise. Ça veut dire, déjà, quand on en compte au bout de doigts, des 193, à quelques éléments qu'on compte au bout de doigts, c'est que l'homme qui était malade est en train de guérir. Deuxième des choses, il faut aussi dire que j'aime beaucoup ce proverbe qui dit que lorsque vous épousez une femme prostituée, ou lorsque vous épousez un homme prostitué, c'est pas du jour au lendemain que celle-ci ou celui-ci va s'habituer aux vertus de la conjugalité. C'est de ça que le Congo souffre. Et donc, Félix Tshisekedi a épousé une nation prostituée dans laquelle il a trouvé des bandits, des traîtres, des détourneurs, des corrupteurs, etc., etc. Et la situation qui semble persister, puisqu'on en finira en si peu de temps à l'est du pays, Vous allez vous rendre compte que c'est une question.
Vous êtes trop sûr de ce que vous avancez comme argumentaire.
Écoute, mon cher ami, ce pays a été...
C'est quand même une guerre qui a plus de 20 décennies. Et puis, vous dites la situation va se décanter comme si ça dépendait de votre parole.
En fait, la vie est faite des agents causaux. Elle est aussi faite des agents qui apportent des solutions à des problèmes causés hier. Un proverbe africain dit, celui qui fait caca dans l'eau finira par boire ses caca. Ce n'est pas Tshisekedi qui a causé cette guerre. C'est pas lui qui l'a amené en 96. Pour votre information, en 96, on s'est battu encore dans la rue. Tshisekedi vient de la rue. Il ne vient ni d'un mouvement politico-militaire. Il ne vient ni d'un mouvement de rébellion, ni d'un mouvement d'agression. Non plus d'un parti politique pouvoiriste. Il vient de la rue. Et donc, la solution à un problème provoqué par ceux qui ont été au pouvoir, ceux qui ont pris les armes et qui ont versé le sang des Congolais, la solution sera trouvée par celui qui est venu de la rue. Quelle honte pour eux. Puisque je vous ai dit qu'on a démarré avec 193 groupes armés au moins, mais aujourd'hui on en compte au bout de doigts. Je vous informe qu'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a eu à présenter le M23 comme un mouvement qui avait des armes sophistiquées. J'ai compris en stratégie ou en étude diplomatique que Antonio Guterres est un corrompu. Il a tenu un discours de propagande pensant que le régime Tshisekedi allait courber les chines.
Mais Tshisekedi savait que tout provenait de Kagame. Mais pendant ce temps, il est traité comme un frère.
Si, mais écoute, j'ai ressassé plusieurs fois cette expression. Il a appelé Kagame frère. C'est au nom des exigences de l'Union africaine. Puisque le panafricanisme exige que l'on s'appelle tous frères. Et l'Union africaine est une organisation des chefs d'État et de gouvernement. Quand Tshisekedi appelle Macky Sall frère, il n'y a pas de drame. Il a continué à appeler Ramaphosa frère, il appelle Lorenzo Franco frère.
Et cela ne voudrait pas déstabiliser la République démocratique
non,
du Congo.
Non, j'en viens.
Contrairement à Kagame.
J'en viens, c'est-à-dire il a appelé frère au nom des exigences de l'Union africaine. Mais écoute, nous l'avons appelé frère hier, mais aujourd'hui, le même Tshisekedi l'a appelé un petit Hitler Adolphe. Il l'a traité de sanguinocrate, ce petit dictateur rwandais qui mange le pain du sang. Alors, pourquoi, vous qui êtes chevalier de la plume et du micro, vous ne présentez pas ce paradoxe à l'opinion?
Nous, on vous pose des questions pour avoir des réponses.
Et donc, je réponds en disant que celui que nous avons appelé hier frère, dans le cadre de l'Union africaine, ne l'est plus. Il est devenu ennemi. Et même quand on l'appelait frère en diplomatie, vous êtes sans savoir que tout oui en démocratie ne signifie pas oui et tout non en démocratie ne signifie pas non. Nous l'avons appelé frère en son temps. C'était stratégiquement de voir comment il se comporterait. Mais il aurait fallu que Félix Tshisekedi soit là pour que l'on découvre que Kagame a un autre nom qui s'appelle Ubwenge. Et Ubwenge en Kinyarwanda veut dire menteur, la ruse, la roublardise, etc., etc. Et donc, si Félix Tshisekedi l'a appelé frère, aujourd'hui, nous ne l'appellerons plus frère. Et qui sont des frères aujourd'hui? Ce sont ces Rwandais-là, la majorité silencieuse, gouvernés par la minorité, je peux appeler cette minorité kagamique Tutsi, qui dirige ce pays. Il faut aussi dire que ce ne sont pas tous les Tutsis qui sont pro-Kagame, il est des Tutsis qui sont contre le régime de Kagame, comme les Kayumba Nyamwasa, etc., etc.
Et ceux qui ont été tués à l'extérieur du Rwanda, bien évidemment.
Et puis, vous en savez quelque chose. Aujourd'hui, si Karega est refusé comme ambassadeur dans d'autres pays, le malheur pour lui, c'est d'avoir été chassé de l'Afrique du Sud, puisque l'opposant rwandais Tutsi, par-dessus tout, avait été tué par Kagame, par ses sbires, en complicité avec Karega qui était ambassadeur là-bas. Et si nous l'avons accepté au Congo sous Kabila, vous êtes sans savoir que la Kabylie était une extension de Kigali. Ça toussait au Rwanda et ça tremblait à Kinshasa. Mais maintenant, Félix Tshisekedi avec son régime, il a tout foutu en l'air. Au point que Kagame est en difficulté de savoir très bien savoir comment marche la République, quelle que soit l'infiltration. C'est comme ça qu'en France, on l'a refusé.
Au point qu'on garde encore l'ambassade congolaise au Rwanda, ce qui est inadmissible.
Mais écoutez, les ambassades sont des maisons. Écoutez, si nous n'avons pas gardé cette ambassade, le joueur Luvumbu n'allez pas vite regagner Kinshasa, sinon on l'aurait empoisonné par les Karuo. Lui-même, il vous dit que déjà là où je logeais, je commençais à avoir des visites suspectes.
Il n'était même pas le seul, il y a encore un autre joueur qui a quitté le Rwanda.
Ben voilà, c'est pour vous dire que les ambassades sont des maisons que nous avons gardées, mais une maison sans ambassade reste, autrement dit, une espèce de bureau administratif, simplement. De la même manière que le Rwanda a encore son ambassade ici à Kinshasa. Et vous êtes sans savoir qu'il n'y a pas d'ambassadeur. Il y a un ambassadeur que nous avons chassé de chez nous. Ça voudrait dire que les relations diplomatiques entre le Congo et le Rwanda restent demeurent problématiques. Il ne faut pas que les gens exploitent des discours alarmistes. Je comprends qu'ils le font par moments par oppositionnisme au régime actuel. Certains, je vous le dis, ils le font par tshisekedi-phobie. C'est la tête de Tshisekedi qui dérange et on est en train de ressasser tous les discours les plus négatifs possibles.
Et on comprend que sans la RDC, Kagame n'est rien.
Mais écoute, nul. Non seulement que sans la RDC, Kagame n'est rien, sans ce qu'ils ont pillé à la RDC, eh ben, l'économie rwandaise est par terre. Je vous informe que depuis que Tshisekedi a ouvert les vannes de l'état de siège, le Rwanda est en chute économique de plus de 44%.
Et cela s'est vérifié.
La grande banque commerciale rwandaise a fermé les portes il y a quelques mois. La Banque nationale rwandaise est en train de liquider son immobilier. Et donc, Tshisekedi est le tombeur de Kagame, vouloir ou pas, puisque à voir la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui, même au front, Kagame commence à utiliser en ce jour sa brigade spéciale pour descendre au front. Puisque toutes les autres unités militaires, vous en connaissez la suite. Les Oisalendo et les FARDC en ont fait toute une boucherie. J'allais dire, ils amènent les militaires rwandais à être transformés en chair à pâté. Donc, il faut dire que Tshisekedi, on peut tout dire, c'est vrai que nul n'est prophète chez soi. C'est le président de la Renaissance.
Très bien, c'est le président de la Renaissance. Nous allons revenir à notre sujet du jour. Mais in fine, qu'est-ce que vous dites ? Le pays est en train de guérir, c'est ça votre...
Oui, j'ai dit que le pays est en train de guérir. Mmh. Je n'ai pas abordé le thème principal qui me donne l'impression d'avoir des allures un peu dialectiques ou dialecticiennes. Je vous laisse à vous, l'arbitre, de pouvoir y revenir. Mais je me limite à ce que vous avez posé comme question jusque-là.
Très bien. Alors, fin du moratoire, la peine de mort en République démocratique du Congo, progression ou régression. Nous allons prendre ces premiers éléments. Il s'agit du ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, qui s'exprimait sur cette question lors d'un briefing presse devant les médias. Il a répondu à une question concernant cette problématique de la fin du moratoire. Donc on l'écoute et puis on revient tout de suite après pour avoir les commentaires de notre invité.
Congo Chronique, magazine présenté par Marlon Cash.
De morts congolais par million, il faut passer par la restauration de la peine de mort pour ceux qui les méritent. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas d'autre choix en face de la traîtrise qui est constatée de manière régulière lorsqu'il faut monter et faire des opérations contre l'ennemi. Ma collègue de la justice, je pense, a pris une note circulaire qui les montre, et qui l'atteste et qui fixe, les infractions ou les comportements qui sont constatés. Je pense que des mesures seront prises pour que chaque fois que justice devra être dite de cette manière, que cela soit des sorts qui sont mérités. Donc il y aura un processus d'encadrement particulier qui se fera. On comprend bien ceux qui réagissent, mais nous savons tous qui est les plus grands tueurs dans l'Est. On ne les cite pas. On pense qu'au contraire, qu'il faut continuer à travailler avec lui. Mais tout ça, ça relève de l'injustice. Et nous prenons des mesures en interne pour répondre à ces questions.
Voilà, c'était le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement. Mais j'ai retenu un mot. Il a utilisé le mot « traîtrise ». Est-ce qu'il s'agit seulement de ces mots-là pour mettre fin au moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo?
Bien, d'abord, je dis que la réponse du ministre Muyaya est une réponse de factice, qui est tout à fait, je peux dire, sociologique, avec un environnement sociométrique. Puisque c'est une question qui relève de la technicité juridique. Et que la réponse qu'il donnait, il s'est servi simplement des faits.
Il était superficiel, c'est ce que vous voulez dire?
Non, non, je ne veux pas dire qu'il était superficiel. J'ai dit qu'il était dans le fond des faits. Il n'était pas dans la technicité juridique que je voudrais accoucher tout à l'heure. Je ne l'ai pas non plus contredit. Donc, c'est dit ce que je veux dire tout à l'heure là, c'est une espèce de paraphrase. Je dis que le moratoire est un document compromissoire des belligérants à Sainte-Cité. Ceux qui ont massacré à Kasika, à Mwenga, à Makobola, à Mugunga, ceux qui se sont battus sur Kisangani et l'ont rendu poudrière, et pourtant il était troisième ville du pays, ce sont ceux-là qui se sont retrouvés à Sainte-Cité, sans tenir compte de leur vraie nationalité. Alors, puisque le besoin des résolutions 1, 2, 3 est connexe de l'époque, voulait bien que la guerre s'arrête, puisque un fils du pays, Laurent Désiré Kabila, venait d'être assassiné toujours à cause de cette sale besogne, avec comme élément pondérateur Kigali et Kampala, sans oublier la complicité des autres puissances, en l'occurrence l'administration Clinton. Eh bien, il était question d'un cessez-le-feu. Et que ce cessez-le-feu avait beaucoup d'obligations. Pour eux, les belligérants, Mouzé dérangeait. C'est comme ça que vous vous rappellerez qu'après les accords de Lusaka, Mouzé arrive ici à Kinshasa, il dit les accords de Lusaka ont failli à leurs objectifs. Ils ont commencé à considérer Mouzé comme étant un blocage à leur plan machiavélique qu'ils avaient. C'est comme ça qu'ils se sont dotés d'une espèce d'amnistie. Ils se sont placés dans une espèce de protectorat. Et qu'il ne faut pas qu'on applique la peine de mort. Puisqu'ils ont causé la mort là-bas. Je vous ai dit autrefois qu'il est un principe latin qui dit « non bella sine morta est », qu'il n'existe pas de guerre sans mort. Et c'est comme ça que je l'ai dit autrefois, que ceux qui ont massacré à l'Est se sont retrouvés en train de rouler dans des jeeps avec gyrophares dans les avenues de Kinshasa. Alors, ce moratoire était un protectorat pour les belligérants. Et puis, faut pas oublier qu'à Sainte-Cité, plusieurs résolutions avaient été prises. Vous vous rappellerez qu'on a même provoqué une espèce d'un moratoire qui ne disait pas son nom sur la double nationalité.
Exactement.
Il y a des gens qui avaient double, triple nationalité, mais qui étaient obligés de servir, d'occuper des fonctions dans notre pays pendant que la loi congolaise a consacré l'unicité et l'exclusivité de la nationalité congolaise. Alors, devant cette situation, 18 ans de règne de la Kabylie, la guerre n'a pas cessé. C'est sous la Kabylie qu'il y a eu ces pas brassage ou mixage. Le brassage était le mot utilisé par l'accord global et inclusif, mais ce qui avait été mis en pratique, c'était le mixage. Vous êtes sans oublier qu'il y avait une espèce de naissance des cendres du CNDP au M23, et du M23-13 vers le M23 d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, Kagame, dans sa stratégie, il est au bout de compte, puisqu'il ne sait même plus faire lui-même la distinction entre le M23 et l'AFC qu'il a créé.
Avec Corneille Nanga.
Non, en fait, ce n'est pas Nanga qui a créé. On a créé l'AFC comme on avait créé l'AFDL. Oui, on a pris des Congolais, on a mis au devant de la scène.
Oui, voilà, le nom qui est cité, c'est Corneille Nanga.
Oui, il est créé.
Qu'il y ait des soubassements.
Il est tout à fait normal, puisque c'est lui le dindon de la face, c'est lui la marionnette qui prend le devant de la scène. Puisque lui-même, Corneille Nanga, ne vit pas dans le Masisi ni à Rutshuru. Il vit en Ouganda. Vous comprenez? Il a deux résidences de l'autre côté. Et les décisions sont prises à Kigali pour être appliquées. Voyez-vous?
Alors, on le croyait mort.
Non, ça veut dire c'est des justesses. Pour quelqu'un qui prend le devant de l'escadron de la mort, il faudra que la mort lui arrive. Voilà pourquoi j'étais contre les propos de la Cinco. En disant que Dieu a dit tu ne tueras pas, mais c'est le même Dieu qui a dit qui tue par l'épée, périra par l'épée. Nanga, tu par l'épée.
Et la mort des méchants réjouit.
Écoute,
mais c'est écrit dans la Bible.
C'est écrit dans la Bible. Vous voyez, ça veut dire qu'il ne faudrait pas utiliser la Bible en portion exceptionnelle.
Quand ça vous plaît, vous tirez les
simplement
de votre côté
puisque puis, vous faites partie de cette corporation religieuse qui est contre le régime. Et puis, c'est une corporation religieuse qui se comporte en ces jours comme une corporation tshisekedi-phobe. Pourquoi? Puisque hier, l'on s'attaquait à la manière de gérer un pays, mais en ce jour, c'est la nature de Tshisekedi, c'est la tête, ce sont ses origines qui dérangent tous ces gens-là. Je vous ai dit hier que j'aurais voulu les voir être préoccupés par l'homosexualité et le lesbianisme qui ont été autorisés par celui que appelle sa sainteté le père ou le pape je ne sais pas, puisqu'ils sont bergers, ils sont pasteurs. C'est quelque chose à ne pas négliger, mon cher ami. Pendant que nous sommes en train de parler, ben Marlon que tu es, on t'appelle tonton Marlon, et puis du jour au lendemain, on t'appelle tantine Marlon. Mais c'est quoi ça, cette histoire? C'est-à-dire l'Église, qui est la leur, devrait mobiliser les gens contre cette sale besogne.
Mais ici, à Kinshasa, ils se sont érigés en obstacle contre cette proposition-là de leur pape, non? Ils ont dit niette.
Vous dites qu'ils se sont érigés, n'est-ce pas? Mais érigés ne suffit pas. Ce sont des brebis, on les nourrit tous les jours de la volonté divine. La volonté divine dit que si je t'insulte, c'est un péché. Mais si on fait l'homosexualité, toi et moi, celle-ci et celle-là, c'est une abomination, c'est-à-dire le grand frère du péché. Et les abominations, à un moment donné de l'histoire, frisent l'impardonnable de la part du Très-Haut. C'est là que nous nous les attendons, au lieu de venir se foufouter avec des discours qui signifient autrement, j'insiste, offrir auxiliarité à Kagame.
Puisque pendant qu'il parlait... Revenons à ces moratoires.
Ouais, avant que je ne revienne au moratoire, j'ai dit que pendant qu'il parlait, Kagame a fait un point de presse à vos confrères de Jeune Afrique. Autrement dit, les propos de la Cinco et les propos de Kagame ont trouvé une espèce de compénétration. Et c'est ce qui est malheureux. Et donc, pour revenir au moratoire, l'exposé de motifs de la circulaire de Madame le ministre de la Justice dit tout. L'on parle de la traîtrise, l'on parle des morts enregistrées, ça fait 10 millions de morts. On ne joue pas avec 10 millions de morts, Marlon. L'on parle de la dissipation, non seulement de la logistique militaire, du détournement et de l'infiltration.
L'infiltration surtout.
J'ai dit quelque part que l'armée, le chef de l'État l'a traité d'une armée minée. Mais je vous dis que moi, je la traite d'une armée implosive. Pourquoi? Puisque dans cette armée, il y a des gens de nationalité rwandaise et ougandaise qui sont dedans. Et Baobet Rabango, le sako, comme on dit, le sake fula. Alors qu'ils ne sont pas fils de ce pays. Je ne peux pas m'arrêter là, puisque j'ai dit que c'est une question aussi de responsabilité partagée. Il y a nos frères qui portent ton sang, qui portent mon sang, qui portent le sang de Mombo qui est en train de faire le régie d'antenne. Qui bouffe de la viande sacrifiée aux idoles, ils mangent à la table du diable pour venir trahir le pays de Lumumba, pour venir trahir leur propre pays de Kimpavita et de Kimbangu. Donc c'est pour vous dire que devant une situation comme celle-là, le droit donne une manière de réfléchir. Tout homme placé dans les mêmes circonstances que, toute nation placée dans la même situation que la RDC, où on a enregistré 10 millions de morts, et les morts continuent à venir tous les jours de la vie. Je t'ai dit que dans les camps des sinistrés, des déplacés de guerre à l'Est, il y a une épidémie qui a frappé. Il y a au moins 10 personnes qui meurent par jour du fait de Kagame, du fait de l'infiltration, du fait des traîtres qui sont là. Et par toutefois de conséquences, dès lors que la peine de mort n'avait jamais été abolie dans notre pays, et qu'elle existe, et qu'elle est là depuis 1940. Là, c'est dans le code pénal. Mais elle existe dans nos coutumes des empires et royaumes précoloniaux avant que les colonisateurs en arrivent.
De manière naturelle.
De manière naturelle, et j'ai dit culturelle même. Et la suite, c'est laquelle? C'est qu'il fallait simplement lever le moratoire. Et ce moratoire qui a été levé, j'ai expliqué, j'ai fait la petite pédagogie d'enfant, c'est que c'était... À l'époque où ce moratoire a été mis en mouvement, c'était une pause qu'on a mise sur un film qui passait. Et dès lors que ces choses ont atteint un paroxysme, il y a un proverbe philosophique qui dit « Lorsque quelque chose atteint son paroxysme, ça tombe au ridicule. » Et devant ce paroxysme, le bouton pause qui avait été appuyé, en ce jour, le régime Tshisekedi a appuyé sur replay. Et le film a continué à passer. Tout ce qui s'agite...
certains de la société civile. J'ai entendu même certains en train de mentir en disant que le moratoire, la levée du moratoire, viole la Constitution. Sans vous présenter expressis verbis, une seule disposition de la Constitution qui a été violée, on comprend pour qui il roule.
Ils avancent un argumentaire selon lequel que mettre fin à une vie humaine serait vraiment désacraliser beaucoup de choses.
Non, c'est la vie humaine qui est sacrée dans la Constitution. Et ça voudrait dire que la vie humaine, elle est extra-patrimoniale. Elle est non seulement intouchable, elle est non inviolable en argent. Écoute, on appelle ça en droit de l'homme le principe d'habeas corpus. L'intouchabilité, la protectabilité du corps humain, vous comprenez? Mais tout principe de droit est accompagné d'exceptions. Et l'exception qui est née en 1940, avant que cette constitution des belligérants ne soit entrée en ligne de compte, c'est qu'il fallait punir de mort ceux qui tombaient sous le coup d'un certain nombre d'infractions telles qu'énumérées dans la circulaire. Et donc, tout ce qu'il raconte là, écoute, mon cher ami, pour certains, ça ressemble à la masturbation intellectuelle.
Mais depuis tout ce temps-là, moi, je me rappelle que le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodiampouanga, du haut de la tribune, il a dit...
Vous, les collègues de l'Est,
quittez les groupes armés, par exemple. Mais Mbosso pouvait aller plus loin en citant nommément toutes ces personnes qui sont impliquées. Pourquoi il s'est arrêté
du haut de ses responsabilités, il ne revenait pas à lui de pouvoir citer. Mais il a dit par la suite qu'il avait reçu déjà un rapport de quelques députés, toute une panoplie.
Mais c'est même Manga Chouchou qui a été arrêté.
S'il a été le cerveau moteur, ça voudrait dire que l'axe central est maîtrisé. Et les autres rentrent que entre les pattes. Il n'y a pas que Mwanga Chouchou. Il y a des députés provinciaux qui sont en justice. Il y a même des députés du mouvement Ensemble.
Oui, récemment, ils ont été arrêtés.
Ils sont aux arrêts, vous comprenez? Ça veut dire, ils sont délinquants. Ils savent à un moment donné chercher comment échapper, comment jouer à l'hypocrisie, etc., etc. Mais je vous informe qu'il y a un proverbe swahili qui dit « Sikuzamwizi ni arobaini », c'est-à-dire le voleur a toujours un jour où il tombera dans les filets. Il a toujours un jour où il sera pendu. Il a toujours un jour où il sera arrêté. Il a toujours un jour où il mourra du vol. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes. Et donc, Mbosso Kodiampouanga n'avait pas tort, il avait raison, mais c'est lui qui pouvait arrêter tous ces gens-là. C'est le pouvoir judiciaire. J'imagine que dans les secrets d'État, peut-être qu'il aurait aussi transmis la liste des députés qui avaient été identifiés dans la chose.
Le pouvoir judiciaire, vous faites allusion à la justice que le président avait qualifiée de malade.
Si, d'abord, il y a une différence entre justice et pouvoir judiciaire. Vous comprenez? Alors, les exécutants, les distributeurs de la justice, pas tous, mais leur corporation, c'est cette corporation que les chefs de l'État avaient traité de...
De malades.
Mais le pouvoir judiciaire lui-même, le président de la République, en est le numéro un. Donc il y a un décalage entre les deux. L'inquiétude qu'il a présentée, c'est dans la marche de la corporation judiciaire ou juridictionnelle. Donc aujourd'hui, j'apporte un sens de proportionnalité à cette incompréhension.
Très bien. Alors, il y a des ONG internationales qui sont contre la levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo. Alors on va les écouter. On va écouter ce que ces ONG proposent et puis nous allons revenir pour continuer avec ce même sujet.
Congo Chronique, magazine présenté par Marlon Cash.
Par principe, nous sommes opposés à la peine de mort en toutes circonstances. Nous estimons que l'application de la peine de mort porte atteinte à la dignité humaine, qu'il n'existe aucune preuve concluante de sa valeur dissuasive et que toute erreur judiciaire entraînant son application est irréversible et irréparable. Plus de deux tiers des pays du monde entier ont aboli la peine de mort en droit ou en pratique. Nous travaillons avec nos partenaires internationaux pour soutenir ces reculs mondiaux de l'application de la peine des morts. Nous espérons que la RDC choisira de se joindre à cet effort. Fin de citation.
Alors, bien. Vous avez suivi cette déclaration.
Oui, mais d'abord.
Par principe, nous croyons que la RDC va suivre la voie des autres pays dans le monde qui sont contre cela. Qu'est-ce que vous, particulièrement, pouvez avancer comme raison par rapport à ce que nous venons de suivre?
Mais d'abord, les ONG, les ONGI ne gouvernent pas les États. elles sont dans leur rôle. Ça, c'est des un. Des deux, on les appelle dans les sciences démocratiques les chiens de garde de la démocratie. Or, dans la démocratie, on ne peut pas parler de démocratie sans le droit de l'homme, etc., etc., disait Bushman John dans son ouvrage intitulé « Résolution de conflits en Afrique ». Il définit la démocratie comme étant la liberté, la participation et l'égalité. Et puis, j'ai aimé un mot que madame qui venait de parler au nom des ONG dit « par principe ».
Par principe.
Alors, par quel principe ? C'est écrit dans quelle loi, ce principe ? Et donc, si elle dit que c'est par principe, nous disons « ok, mais nous, nous maintenons la peine de mort par exception ». Puisque tout principe de droit est accompagné d'une exception. On te dit même que l'exception déroge à la règle générale. Et puis, quand elles font une étude comparative, non, plus de deux tiers des pays du monde, c'est un mensonge, c'est un discours péremptoire et extrapolant. Je vous prends l'exemple des États-Unis, la première puissance du monde. La peine de mort est appliquée.
Dans certains États, pas dans
écoute,
pas tous
les
États-Unis.
Écoute, vous parlez dans certains États qui ne font même pas la majorité. Mais ce sont des États, nous sommes dans la théorie du contenu dans le contenant. Mais la Cour suprême américaine n'a jamais autorisé l'abolition de la peine de mort. On l'applique tous les jours de la vie ici. Voilà pourquoi, dans quelques États dont on parle là-bas, puisqu'ils ont aussi ce qu'on appelle une espèce de liberté d'organisation judiciaire, dans quelques États, l'on a aboli. Mais puisqu'on parle des États-Unis, pourquoi on ne parle pas de la Chine, qui est la capitale mondiale de la pendaison publique ? Mais la Chine, sur le plan économique, elle ne peut pas être comparée à nous. Nous avons des capitaux chinois dans notre pays, plus que les Occidentaux. Plus que même ce que la Banque mondiale peut mettre à notre disposition. Ce n'est secret pour personne. La convention sino-congolaise, qui a été pratiquement une escroquerie que Félix Tshisekedi a remis en état pour réchelonnement, réévaluation, etc. Les Occidentaux appelaient ça le contrat du siècle. Mais vas-y en Chine, c'est plus de 3000 pendus par année.
Là, on n'en parle pas.
Mais là, on n'en parle pas. Pourquoi ? Puisque la Chine est une puissance. La Chine, elle s'est traitée d'égal à égal avec ces États-là. Mais la Russie qui est une puissance qui met en position inconfortable comme on dit à Lingala et Tcheba occidentaux, pandilikolo lelo. Mais la Russie a maintenu la peine de mort. Mais pourquoi on n'en parle pas ? Il y a aussi des ONG dans ces pays-là. Je ne peux pas me limiter là. Je vous parle d'une autre puissance actuellement mondiale qui est devenue même plus populeuse que la Chine. C'est l'Inde. L'Inde, l'Arabie Saoudite, le Pakistan, l'Indonésie, etc., etc., c'est des pays qui ont maintenu la peine de mort. Pourquoi on ne va pas crier là-bas ? De toute façon, le chien aboie et la caravane passe. L'erreur dans la communication des ONG tout à l'heure, c'est comme certains juristes que j'apprécie beaucoup, puisque dans notre profession d'avocat, nous sommes invités à l'obligation de réserve, et puis il ne faut pas être outrecuidant. Nombreux que j'ai entendus parler, ils ont parlé français, certains ont parlé droit. Mais c'est la même erreur que les ONG. Les ONG amènent la polémique entre les abolitionnistes et les rétentionnistes dans le débat sous examen. Le Congo n'est pas dans la situation de conflit de courants académiciens entre intellectuels, non. Le Congo a constaté qu'il a totalisé plus de 10 millions de morts du fait de la sale besogne de Kagame, c'est pas de Museveni, etc., etc. Et par toute voie de conséquence, on regarde dans l'arsenal juridique congolais. On s'est dit, non, la peine de mort n'a jamais été abolie. Les décisions de condamnation à mort qui ont été prises hier n'ont jamais été appliquées. Pourquoi ? Puisque il y avait cette espèce de moratoire. Alors, par toute voie de conséquence, qu'est-ce qu'il faut ? Puisque le droit pénal a aussi comme rôle pour recadrer les délinquants en société. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? On lève le moratoire. Nous n'avons pas créé une nouvelle loi. C'est toujours les mêmes dispositions de 1940 que nous appliquons.
Mais vous n'avez pas peur que même les innocents se retrouvent dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui un piège ?
Oui, ça veut dire que parler des innocents est un cas isolé. Pour être innocent, qui innocente les gens ? Mais c'est le pouvoir judiciaire. Et puis pour être condamné à mort définitivement, bah tu auras un poteau, bah fongoli penamandu qui pam 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 pam. Pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il faut? Il y a toute une procédure qu'il faut respecter, n'est-ce pas? Lorsque la décision judiciaire atteint l'autorité de la chose jugée, comme on appelle chez nous en droit, res judicata pro veritate habetur, j'exagère en parlant aussi qui devient opposable à tout le monde, erga omnes, c'est-à-dire toutes les voies de recours ordinaires et extraordinaires ont été épuisées. Et c'est cette fois-là que le ministère public de la juridiction pénale peut saisir le président de la République pour une possibilité de mesure de grâce pour empêcher à ce que vous soyez aiguillé. Et si le président de la République est favorable, eh bien, monsieur, votre peine pourra être commuée, tout comme vous pouvez être disculpé puisqu'il est juge suprême de la nation. Mais attention, avec le silence du président de la République et les refus, dès lors qu'il est silencieux et qu'il refuse, eh bien, écoutez, messieurs, on vous met au poteau pour avoir fait tuer 200 de nos militaires congolais à Rutshuru, au Massissi, on vous met au poteau pour avoir détourné l'argent acheminé pour primes et salaires ou soldes de nos militaires, on vous met au poteau d'avoir vendu nos munitions à la logistique là-bas, on vous met au poteau pour avoir trahi, pour avoir vendu les informations, qui que vous soyez. Donc c'est pour cette raison que ce moratoire a été levé, afin que nous puissions faire le toilettage de l'armée par la justice.
Ça ne concerne que l'armée ou encore les civils aussi?
Non, ça veut dire que la traîtrise n'est pas simplement l'affaire des hommes en uniforme. L'arsenal judiciaire congolais prévoit même des contextes où on poursuit et civils et militaires en même temps.
Alors, soyons concrets. Les gens comme les Nanga, les gens comme de Yannick Tshisola, les gens comme de Henri Maggi, Adam Chaloué, sont considérés aujourd'hui comme des traîtres.
Mais je te dis que le mot traître est beau pour eux. Le mot traître, c'est un terme un peu générique. Ils ont pris les armes contre leur propre pays. La première infraction, c'est l'atteinte à la sûreté de l'État. Deuxième des choses, ils ont offert la complicité aux agresseurs. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'il y a là-bas, M23, AFC, ce sont des corporations inutiles. En réalité, c'est l'armée rwandaise qui meurt tous les jours de la vie. Vous comprenez? Et on a cherché, comme on avait fait avec l'AFDEL, on cherche quelques Congolais qu'il faut mettre devant la scène. Voyez-vous, auparavant, lorsque vous suivez très bien les propos de Nanga, il parlait des tribalistes. Il dit non, un régime tribal. J'ai compris que la stratégie des Kagame et de tous les opposants camouflés de Tshisekedi qui sont en complicité, puisqu'il faut dire que Kagame n'a plus d'argent, l'argent pour financer la guerre lui vient, surtout ceux de l'ancien régime. Alors qu'est-ce qu'il faut? Ils pensent que la seule manière de trouver motif de ce combat, c'est de tenir par exemple des discours kassaïphobes. Et maintenant, comment on va faire pour tenir des discours kassaïphobes sans un jour ingénieur du Kassaï? C'est comme ça qu'on a fabriqué Jean-Jacques Mamba.
Mamba.
Au motif que quand il tiendrait parole là-bas, l'on dirait, mais écoutez, c'est comme ça. C'est la même politique de 1998, c'est la même politique de 1996 qui se répète. Donc on cherche, puisque même à l'époque de Laurent Désiré Kabila, il n'y avait pas de Chabien dans la rébellion là. Mais il fallait les chercher, on est allé les recruter en Belgique, en France. Même ceux qui étaient dans le régime de Mobutu, on les a pris, on les a mis dans le RCD. Vous comprenez? Pour que l'on dise, si nous n'avons pas des originaires du Chaba dans la rébellion du RCD, l'on dira que cette province pourra nous tourner le dos totalement. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas un reflet identitaire dans la chose. Mais dès lors qu'ils les ont ramassés, ils ont mis dedans, c'était dans l'objectif de dire que Mouzé n'est pas le seul Katangé qui aurait raison. Il y a d'autres Katangé qui s'opposent à lui. Et c'est la même stratégie qu'on a ramassé Jean-Jacques Mamba. Mmh. Et tout ce qu'il tient comme discours, comme par malheur, favorable à Kagame. Je l'ai vu faire l'apologie de Kagame. Kagame sait faire ce qu'il fait pour son peuple. Mais qu'est-ce que Kagame fait pour son peuple? Il prend une certaine minorité Tutsi qui dirige une majorité Hutu, puisque le Rwanda a trois peuples, les Toa, les Tutsi et la majorité Hutu. Mais qu'est-ce que Kagame fait pour son pays? Mais c'est un dictateur, c'est un sanguinocrate. Imaginez-vous, c'est chaque mois qu'il met en prison des officiers militaires qui sont fatigués de voir les militaires mourir sur le sol congolais, dans le Massissi et dans le Rutshuru.
Inutilement même.
Inutilement. Et quand quelqu'un parle comme ça, automatiquement, Il fait la prison. Et c'est celui-là que Jean-Jacques Mamba est en train de défendre. Écoute, nous nous disons, retenez cette date. Le fait pour nos frères de s'être associés à la salle Besançon de Kagame, c'est-à-dire, ils sont allés bénir l'agression, ils sont allés bénir les génocides de nos frères. Jour après jour, à grande vitesse, le déclin de Kagame est en train de venir. Comme en droit on dit que l'accessoire suit le principal, tous ces Congolais accessoires qui ont suivi le principal et qui est Kagame vont finir par être dans la rigole avec lui. Nous allons finir cette guerre, comme disait Simon Kimbangu, que le cinquième président sera ce président qui va pacifier les territoires congolais. Nous allons gagner cette guerre et je te signale déjà combien de fois ils ont promis qu'ils vont prendre Goma. Même le discours qu'a tenu Nanga là-bas, c'est un discours de propagande.
Il a tenu un discours devant la population congolaise.
Il n'a pas tenu un discours devant la population congolaise. Il a tenu un discours devant une population sous contrôle des forces négatives. Et cette population n'a ni armes ni quoi que ce soit. Tiendrait-il ce discours-là devant les Ouazalendos, puisque les Ouazalendos sont des civils? Je t'informe, quelqu'un aurait laissé son caleçon là-bas. Et donc c'est pour te dire, ils ne peuvent faire ça que pour monter des images de propagande. Il ne faut pas oublier que la guerre médiatique s'était déjà invitée dans cette salle besogne depuis 1996. Il y a des villes qui tombaient au Zaïre avant que l'AFDL n'entre.
Avant de prendre la réaction de la population qui a réagi par rapport à cette question, je vous pose une petite question. Pourquoi seulement les cadres du PPRD?
C'est une question.
Ils se rallient à l'AFP, de Nanga.
Ça voudrait
dire. Est-ce qu'il y a eu déjà des agendas cachés que le peuple ne savait pas, ne connaissait pas ou
En fait, juridiquement, je n'ai pas de réponse. Mais politiquement, j'ai des réponses. Retenez ce jour que la Kabylie soutient Kagame et le M23. Il me semble, selon certaines indiscrétions, les jeunes du FCC, parce qu'il ne s'agit pas simplement du PPRD, les jeunes du FCC auraient atteint 150. Nombreux des jeunes qui faisaient beaucoup de bruit sous des médias qui n'ont ici. Vous les voyez encore venir pérorer? Où sont-ils? Papi Mpungwe, qui était ancien ministre des vice-ministre des hydrocarbures, vous savez pourquoi il avait été arrêté? Il a été trahi par quelqu'un de leur camp politique, disant qu'il était en train de prendre la Zambie. Dès qu'il est en Zambie, il va entrer gratuitement sans visa au Zimbabwe. Ou du Zimbabwe, il sait se frayer un chemin par Tunduma, il entre en Tanzanie. Et quand vous êtes en Tanzanie, il y a des bus Takwa qui vous prennent à partir de Dar es Salaam, qui vous amènent à Mombasa, et qu'est-ce que je dis, à Nairobi. Et de Nairobi, vous avez la possibilité de rejoindre la résidence de Nanga à Kampala. Et pourquoi pas ne pas entrer par Kigali. C'est comme ça que nombreux sont déjà partis. La photo que vous avez vue là, c'est quelques jeunes du PPRD téméraires qui ont décidé d'être vus à la scène. Et je vous informe que les jeunes que vous avez vus en dehors de Tchaloué, qui était votre confrère, les autres faisaient partie du coulisses. Alors comme c'est des pouvoiristes, ils ont régné dans une bourgeoisie comprador. Ils étaient habitués de saigner la République pour raison d'intérêts nombrilistes, égoïstes, sordides et mesquins. Mais quand le régime a changé, surtout à l'époque de la tombée de la coalition FCC-CACH, mais les biftecs qu'ils avaient sont partis. Et c'est quoi la solution? Ils se disent, mais nous sommes venus de l'AFDL. Comme Tshisekedi est encore populaire, la seule manière de le mettre en difficulté, qu'est-ce qu'il faut? Il faut soutenir un mouvement de rébellion. De tout ce temps, ils ont manqué des gens à présenter. L'ancien général qui est fugitif avait été,
John Numbi,
avait été cité par la société civile de Massissier de Rutshuru il y a une année et quelques. Mais quand il a été cité, j'ai comme l'impression qu'il s'est rétracté pour rester œuvré peut-être dans l'ombre. Maintenant, on cherchait un Congolais téméraire à qui la Kabylie avait remis une concession minière en Ituri, sans titre ni droit. Et voilà qu'aujourd'hui, ces choses ont été retournées dans le domaine domanial, j'exagère, de l'État. Et il se sent frustré à l'occasion. Et par toute voie de conséquence, pour une mine d'or qui vous avaient été remis frauduleusement, c'est-à-dire que vous y avez tiré des millions aussi frauduleusement, que l'on a retourné à votre pays pour raison d'intérêt général, vous vous décidez de prendre les armes pour faire couler le sang. C'est une rêverie. Déjà, quand ça fait plus de 3000 morts chez les militaires rwandais, mais avec quel militaire vous prendrez-vous Goma? Je t'informe que avant qu'il n'arrive à la dernière colline qui surplombe Goma, je vous signale que les FARDC, les Wazalendo, les forces de la SADC et autres auraient déjà fait un carnage. Et je t'informe que le carnage ne provoquerait plus de deuil au Rwanda, ça provoquerait la protestation contre le régime de Kigali. C'est là que vous apprendrez que du fait du bouton rouge que l'armée congolaise, les alliés de la RDC appuieront au pays, il y aura du feu pour un conflit rwando-rwandais. Et donc, par toute voie de conséquence, les ONG peuvent crier, je les entends réfléchir, tout ce qu'ils font là, c'est une espèce de courant, une espèce de polémique entre le courant abolitionniste et rétentionniste. Ça, c'est un débat académicien qui n'a rien à faire avec la réalité actuelle. S'ils veulent militer pour l'abolition de la peine de mort, ce n'est pas par ce qu'ils font. On ne peut abolir la peine de mort que par la voie du débat parlementaire. Or, je signale à l'époque où le professeur Mbata, j'imagine avant qu'il ne remplace Jean-Marc Kabound, avait tenté d'ouvrir le débat sur l'abolition de la peine de mort, la corporation que je chapeaute au sein de l'UTPS, nous avons rédigé une lettre d'opposition. Nous avons adressé une lettre à Mme Abunda, nous avons gardé, adressé copie conforme à Jean-Marc Kabound, qui était premier vice-président de l'Assemblée nationale à l'époque. Nous avons même gardé copie pour information au président de la République que ce n'est pas un pays qui a enregistré 10 millions de morts, où les gens peuvent venir, ils apportent leur réflexion scientifique, ne tenant pas compte de la réalité du terrain. C'est là que la praxéologie et la science et l'efficience la plus importante dans toutes les sciences du monde. Pourquoi ? On ne peut pas avoir des lois qui ne tiennent pas compte des réalités du terrain.
Très bien. Alors, on va prendre la dernière partie de l'émission. On va prendre la population qui a réagi par rapport à cette question.
Congo Chronique, magazine présenté par Marlon Cash.
Naza pour. Pourquoi ? On a... Comment on a des voyous, des désordres, des machettes, des nini. Donc, il y a un choix exacté, tout comme ça, dans ma cambouana, il y a un peine de mort, pardon.
Pour la RDC, je suis contre la peine de mort. Parce que, d'abord, pour qu'on périsse une personne ou qu'on fasse mourir une personne, il faut d'abord des procès équitables. Mais ce qui n'est pas, disons, le cas de notre pays. Nous voyons des choses qui se passent avec notre justice. Et la peine de mort avec la peine de mort qu'on vient de mettre, bon, ça serait vraiment déplorable parce que, pour moi, je crois que ça serait juste des comptes, des règlements de comptes.
Naï naza pour décision wana naïvité ce qui est outil et pas yanani mais naza convaincu eza résultat ya réflexion mingi pe beaucoup de travail salama ki na sima wana pouete tozomo na l'état aza lissou na impact te.
Alors nous venons de suivre un échantillon de la population kinoise qui s'est exprimée par rapport à cette question concernant la levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo. La première personne est pour. Mais la première personne parle beaucoup plus des Kuluna, des gens qui se servent des machettes pour semer la pagaille en pleine ville de Kinshasa. Et la deuxième personne est contre parce qu'elle estime que la justice en République démocratique du Congo n'est pas conforme, ne respecte pas les normes. La troisième personne est pour parce qu'elle avance l'argumentaire selon lequel que la réflexion a été mûrie pour prendre cette décision. Vous êtes avec nous au studio. Qu'en pensez-vous ? Ne voyez-vous pas que chacun comprend cette question à sa façon et ne sait pas réellement quelle est la vraie motivation ?
Bon, d'abord, si on était dans un vote, la l'application de la peine de mort a gagné l'élection.
2-1.
Ça veut dire on gagne aux élections même par la majorité simple. Mm-hmm. Et même si on était à égalité, on allait voir l'âge de ceux qui parlent. Et puis on verrait par la suite à la rigueur chez les censeurs l'argumentaire. Parce que l'argumentaire que cette dame a avancé, c'est l'argumentaire des opposants. Bon, pas tous, mais il y a certains opposants qui sont pour l'application de la peine de mort. Donc ça veut dire, elle a émis un point de vue sectaire et marginal. Alors, effectivement, puisque nous venons de faire un développement simplement par rapport à la traîtrise, à la trahison, la sûreté de l'État, l'agression, la vente des munitions, le détournement des deniers de l'armée, etc.
L'infiltration et tout.
Mais effectivement, cette question de Koulouna, cette ville devient invivable et c'est la capitale. Combien de morts ont été causées par les Koulouna? Aujourd'hui, je suis content que la justice militaire se soit réveillée. Elle a fouillé dans le code pénal ordinaire et dans le code pénal militaire. On se rend compte que les actes des Koulouna sont des actes de terrorisme et que le terrorisme est puni des morts. Et les juges du terroriste peuvent être celui civil, tout comme celui militaire. Voilà pourquoi l'auditeur supérieur, l'ITA, qui se charge de près la cour d'appel de Matete, a déjà commencé à arrêter les Koulouna. Et c'est les militaires qui descendent pour arrêter. Puisqu'on a fait aussi constater qu'il y avait une espèce de familiarité entre la police et l'armée. Or, c'est une question d'ordre public. L'ordre public n'a pas de couleur. Il invite à tout le monde de venir mettre la main à la pâte afin que la tranquillité publique règne, la salubrité publique règne et tout ce qu'on peut dire. Et donc, aussi pour les Koulouna, il y en a comme ça à Kinshasa, il y en a comme ça dans d'autres grandes villes du pays. Pendant que je te parle, les Mbororo ont repris à semer la désolation dans la province, je crois, de Haute-Ouélé. Comment il faut agir? Un grand pays comme celui-ci, vous allez vous rendre compte que tous les grands pays à notre superficie ont maintenu la peine de mort. Et les grands pays qui sont dans notre diapason, c'est lesquels? Ben, c'est les États-Unis, c'est le Brésil, c'est l'Argentine, c'est l'Algérie, c'est la Russie, c'est
la Chine,
c'est l'Arabie Saoudite, c'est le Pakistan, c'est l'Inde. Donc tous les petits pays là-bas qui font beaucoup de bruit là-bas, c'est de la péréraison inutile, le chien aboie et la caravane passe.
On va terminer cette émission. Une dernière question pour nous résumer. Progression ou régression, la levée du moratoire de la peine de mort en République démocratique du Congo. Pour terminer.
Alors, il faut dire que c'est une thématique très scientifique que vous avez choisie. Mais je vais vous répondre de manière surprenante. On n'est ni dans la situation de la régression, ni dans la situation de la progression. Nous sommes simplement dans la continuité. Si la continuité peut être interprétée comme une progression, tant pis. Seulement que nous sommes dans une situation où le nombre de délinquances militaires, civiles, etc., etc., était monté au créneau. Et pendant que ça montait au créneau. 18 ans avant nous, des mesures n'avaient pas été prises. Pourquoi? Parce qu'on comprend que la Kabylie est venue de belligérants. La Kabylie vient de l'AFDL. Je vous dis que si c'était Mouzé qui avait dirigé ce pays pendant 18 ans, il aurait accentué la peine de mort. Pourquoi? Parce que déjà quand il était là, de manière sommaire, pour faire asseoir son régime, on pendait même les voleurs de cacahuètes.
Les gens étaient exécutés. Bon,
effectivement, nous n'avons pas été d'accord par rapport au principe de droit de l'homme. Mais j'ai dit que si c'était lui, le président des 18 ans passés, il aurait même endurci les mesures. Mais comme la Kabylie était une extension de Kigali, il était tout à fait normal qu'il gravite autour du pot. Voilà qu'un fils du pays qui ne vient ni de la guerre, ni des mouvements politico-militaires, ni des rébellions, ni des mouvements d'agression. Il vient simplement de la rue. Le souci pour lequel nous, UDP avons été la capitale mondiale du génocide en tant que parti politique. Capitale mondiale des arrestations arbitraires. Capitale mondiale des privations de droits et libertés.
Vous commencez à prêcher pour votre paroisse, là.
Je ne prêche pas pour ma paroisse, c'est la réalité. Est-ce que tu sais qu'à quelques jours d'accession au pouvoir de l'UDP,
on va terminer.
Les Jacobéa qui sont là, Félix Tshisekedi les a trouvés en prison. Ils ont été arrêtés sous un faux motif qu'ils étaient des Kamuina Nsapu de Kinshasa. Avez-vous appris qu'il existait des Kamuina Nsapu de Kinshasa? C'était un montage de la Kabylie. Je vous dis des réalités que nous avons vécues. Il n'y a qu'un seul parti politique avec la carte. À l'époque de tous ces régimes, puisque nous avons combattu trois régimes, on pouvait vous admettre comme réfugié dans un pays étranger. Maître... Donc je ne raconte pas des fables, je vous parle de la réalité que vous, présentateurs, que Mombo, le technicien...
Le régisseur, les techniciens.
Voilà, avons vécu.
Maître Passim Bayo, avocat, directeur des cabinets au ministère de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, président national de la colline des Popularium Progressio. Pourquoi vous avez choisi ces mots latins?
Ça signifie simplement la colline du progrès social. Il ne faut pas se casser les nerfs.
Mais
nous avons simplement pris, puisque l'UDPS s'appelle...
Mettez même Lingala.
Écoutez, on y va lentement. Ça fait peut-être la liberté de choix en démocratie. Ça veut dire, on dit l'union pour la démocratie et le progrès social. Le progrès social, c'est celui-là que nous avons simplement converti en latin à l'époque, donc, qu'on a appelé le Populorum Progressio. Vous comprenez? Donc si vous pouvez aussi l'appeler la colline du progrès social, ça peut toujours rouler. Pourquoi pas la convention et tout ça?
Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions et surtout d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie, c'est la première fois que la radio des femmes me reçoit. J'étais en train de penser que l'intitulé de la chaîne, l'enseigne juridique et commerciale de cette chaîne était de naissance féministe, mais que je viens d'avoir l'explication, j'ai dit que bon, ça va.
Donc vous vous êtes fait une idée exacte sur la radio des femmes.
Ouais.
Vous en avez pu vous tromper.
Non, je ne vais plus me tromper.
Il n'y a pas question de féministe ici.
J'encourage cette chaîne.
Merci.
Je trouve que vous avez aussi un beau cadre. Qui pouvait savoir que vous cachiez une mine d'or.
Merci beaucoup.
Merci, c'est moi qui vous remercie pour m'avoir reçu et je vous témoigne surtout de les sentiments patriotiques.
Merci beaucoup et merci d'avoir été avec nous. Alors, c'est la fin de ce magazine Congo Chronique qui a reçu dans ces studios, hein, j'ai l'habitude de dire sur le plateau, on est dans ces studios, Maître Passim Bayo, il est avocat, directeur des cabinets au ministère de la Jeunesse et Initiation, à la Nouvelle Citoyenneté et aussi président national de la colline du Popularium Progresso Copop. Et nous fixons rendez-vous pour très bientôt pour un nouveau numéro. Ça sera toujours avec les mêmes plaisirs. À très vite.